La vérité et le pardon. Bon, l'illustration, on la verra tout à l'heure. Vous reconnaissez cette fleur, cette magnifique fleur? C'est un pissenlit? C'est une belle fleur? Ah, il y a des... C'est partagé, là. Bon, c'est une fleur. Allez. Et donc, vérité et pardon. Pourquoi j'ai eu à cœur de vous partager ce message d'associer ces deux noms, c'est que, bien sûr, le Seigneur est un Dieu de grâce qui nous pardonne. On l'a chanté, on l'a redit, et c'est un Dieu de vérité. Et il va pardonner les péchés qu'on va lui amener, qu'on va lui présenter. Ce qui reste caché, ce qu'on veut nous-mêmes cacher, il ne peut pas le pardonner. Et donc les deux fonctionnent ensemble. Et c'est aussi pour vous aider à prendre conscience de ça, à travers ma vie, celle de ceux que je rencontre, que je connais. On sait qu'il y a des fardeaux sur les vies. Et vraiment des freins, et on sent qu'il reste quelque chose. Ce n'est pas que les gens n'aient pas envie de faire la volonté de Dieu. Je crois que vraiment, dans leur cœur, ils souhaitent faire tout le bien qu'ils entendent dans la parole. Mais il y a comme quelque chose qui les retient. Et souvent, il y a une des choses... Je peux essayer de les aider, mais ce n'est pas moi qui vais fouiller dans leur vie. C'est le pardon qui n'a pas été donné, quoi. Et pourquoi la vérité? Parce qu'en fait, le Seigneur veut qu'on soit intègre devant lui, qu'on ouvre notre cœur. Et dans cette ouverture de cœur, disant, Seigneur, je te confie ce problème, je ne sais pas comment faire. Je sais que ça pèse sur ma vie, c'est une situation qui n'est pas réglée. Et s'il y a un pardon à donner, Seigneur, aide-moi à le donner. Et ces deux mots-là associés, ce sont vraiment une clé pour libérer nos vies. Amen. On peut passer à la suivante. Dieu est juste et vous le savez, je pense. Et je vais vous relire ce passage d'un Jean. 1 Jean 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Et la vie a été manifestée. Nous l'avons vue et nous en rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Il nous est parlé de Jésus, là. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ceci, nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a en lui aucun ténèbre. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, il est lui-même dans la lumière. Nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Nous l'avons encore entendu tout de suite. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Amen. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Et chapitre 2, mes petits enfants, je vous écris ceci, afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Amen. C'est ce message-là que... Alors ce sont mes paroles, mais Seigneur, que ton Saint-Esprit, touche les cœurs à travers ces mots. Il y a les paroles d'un homme, mais il y a la parole du Saint-Esprit qui va aller toucher vos cœurs sur cette notion de vérité, de justice et de grâce et de pardon. Donc nous comprenons tous que, je pense qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus, nous comprenons que Dieu est juste. Il est un Dieu juste, un Dieu de justice et de vérité. Il connaît parfaitement tout de nous. Tout de nous. Beaucoup mieux que moi-même. Je me connais. Lui, il sonde toutes mes profondeurs. Et son jugement ne peut souffrir d'aucune contestation. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience-là. Ah ! Quand la vérité vient devant vous, que Jésus vous la manifeste. Seigneur, oui, c'est toi qui as raison. Où j'étais parti, là ? Le psaume 119, verset 137, dit « Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Ils sont parfaits. » Tout de suite, nous avons lu 1 Jean 2, 1, « Jésus-Christ, le juste. » Et ce n'est pas la même notion de justice que les hommes. Vous savez, peut-être pour ceux qui aiment le sport, combien les arbitres, surtout ceux du foot, sont contestés. C'est assez... Moi, ça me... Je dis, bon, mais c'est pas possible, c'est un sport. Et puis, mais l'arbitre, qui est un homme, un simple homme, avec peu de moyens, bah, il ne peut pas tout voir. Bah, il n'a pas tout vu, mais par contre, il y a quelqu'un qui a vu autre chose. Alors le pauvre, il se fait agresser. Mais Dieu, ce n'est pas la même chose. Il a tout vu. Il n'est pas limité comme être un simple arbitre sur un terrain de foot. Il voit tout. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il est fidèle et juste pour nous pardonner si nous confessons nos péchés. Et nous purifier de toute injustice. Et nos péchés ont besoin d'être amenés à la lumière. Peut-être la première fois que vous avez rencontré le Seigneur, là, il y a beaucoup de choses qui se sont mises devant vos yeux et vous avez eu d'un coup cette horreur du péché et vous avez demandé pardon pour tout ce que le Seigneur vous montrait. Mais ensuite, la vie continue et vous n'êtes pas sans péché, malheureusement. Et puis, il y a des choses qui reviennent après de votre existence. Et puis... Et qui peuvent vous faire souffrir, qui sont comme des liens qui vous ont opprimé, non seulement une fois, mais ensuite en vous tenant prisonnier. Et ces choses-là, le Seigneur est aussi venu pour vous libérer. Et il veut que de votre bouche, vous prononciez le pardon. Je pardonne à ces personnes qui m'ont offensé. Ou je veux te demander pardon, Seigneur, pour ce que j'ai fait souffrir à telle et telle personne. Et donc, sans vérité, il n'y a pas de vraie repentance. Sans une exposition à la lumière, il n'y a pas cette vraie repentance. Et donc, il n'y a pas de pardon. Jésus ne veut pas pardonner ce que nous ne confessons pas. Et seulement quand c'est un accord intellectuel. Non, il veut que ce soit de tout notre cœur, des cœurs saisis par ce dégoût du péché, de ce mal que nous avons pu faire. Mais aussi de comprendre le mal qui nous a été fait, de ne pas dire, comme souvent on l'entend, « mais c'est pas grave ». Non, non, c'est pas grave. Mais entre-temps, il y en a des grosses blessures là. Non. Dans les offenses que vous avez subies, ou dans celle que vous avez commis contre quelqu'un. Le Seigneur, il veut que vous rédigiez la facture, tous les points, tac, 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 sans rien oublier. Non, non, alors je veux surtout rien oublier parce que je ne voudrais pas qu'il reste quelque chose. Donc tout mettre sur la facture. Et la facture, vous la déposez aux pieds de Jésus. Et Jésus, le tampon de son sang qui a payé, acquitté, c'est lui qui a payé pour ces choses-là. Je ne voudrais pas vous entendre dire des choses comme « c'est pas grave ». Quelquefois, il y a des toutes petites choses. Dites-le simplement. « Mais oui, là, tu m'as vexé, tu m'as perturbé par ce que tu as dit, par ce que tu as fait. » Dites-le tout simplement. Il y a dans Jacques 5, un verset qui reprend ça. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière agissante du juste a une grande efficacité. La puissance de cette confession du péché, de mettre à la lumière, et la puissance du pardon de Jésus. Et donc, vous pourriez me dire, mais moi, on m'a prêché un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, et... Mais où est ce Dieu d'amour et où est ce Dieu de grâce, quoi? Puisque tu nous parles de la vérité, tu nous parles d'un jugement, si on n'amène pas les choses à la vérité. Dieu est juste, il voit tout. Il ne veut pas que vous restiez avec quelque chose de caché dans votre vie, qui est un mensonge. Il veut amener ça à la clarté. Il veut l'intégrité de notre cœur. Il ne veut pas des choses étouffées dans les ténèbres. Parce que tant que c'est étouffé dans les ténèbres, il y en a un qui se frotte les mains. Parce qu'il continue soit de vous accuser avec ça, soit de vous mettre la honte avec ça. Parce que ça vous reprend, ce sont des blessures. Je comprends, parce que je l'ai vécu, sans doute je le revivrai encore. Il y a des choses qui remontent, qui étaient oubliées. Peut-être des choses qui n'avaient été jamais révélées. Je pense à des choses que je n'ai pas pu voir parce que peut-être j'étais enfant. Mais que le Seigneur va révéler un jour. Et qui sont douloureuses. Et puis on dit, je m'embête pas avec ça. Et pourtant, si le Seigneur veut que ça arrive à la lumière, c'est pour vous en libérer. Totalement. Le Seigneur marche dans la lumière. Il veut nous amener dans la lumière, pas laisser des possibilités à l'ennemi de vous rendre encore esclaves. Et donc toutes ces choses qui sont cachées, c'est pour ça qu'il y avait cette image de cette belle fleur de pissenlit au départ. Alors vous savez, je ne sais pas si vous semez du gazon, de la pelouse. Normalement, il n'y a pas de graines de pissenlit avec les graines d'ivraie, parce que là, c'est de l'ivraie, du coup. les graines de pissenlit, vous savez comment c'est? Vous avez dû jouer avec ça. C'est la petite boule, là, donc, où il y a toutes les graines, et puis on souffle dessus, ça s'en va. Vous avez joué à ça quand vous étiez petit? Moi, je joue toujours. Hein. Mais bon. Et donc, j'ai jamais semé de graines de pissenlit sur ma pelouse. Et par contre, elles sont bien là. Et puis, ma chérie, elle n'aime pas ça. Elle s'est dit, bon, ça fait négliger. Bon, ce sont des fleurs quand même. Et donc, la tondeuse, on passe à coup de tondeuse, plus de pissenlit. Formidable, hein? Sauf que, pas très longtemps après, il y en a d'autres. Elles sont toujours là. Qu'est-ce qui se passe? C'est que pour le pissenlit, comme pour d'autres arbres, d'autres plantes, il y a des racines profondes, bien installées, quoi. Puis la racine, elle est restée là. Donc le coup de tondeuse, bon, ça a été bon pour un temps. Mais ça n'a pas été définitif, quoi. Donc on revoit ces belles fleurs. Et puis du coup, il faut aller les chercher en profondeur. Alors dans le temps, on prenait le couteau, puis on allait chercher ça. Mais maintenant, on a trouvé. Enfin, il y a des solutions à tout. Il y a des outils. Alors là, on plante ça dans la terre, on retire Et normalement, c'est bon, s'il ne reste pas un petit bout de racine, parce que bon, il peut y courter aussi, hein. Et puis ça repartirait, quoi. Et donc, tout ce qui est enraciné dans les profondeurs de nos vies, ce n'est pas un simple coup de torchon qui va essuyer ça, ou un coup de tondeuse. Hein. Le Seigneur veut, parce qu'il voit tout, il veut aller dans les profondeurs de notre vie pour nous délivrer de ces choses-là. Donc voilà pour l'histoire du pissenlit. Donc, et concernant des choses qui sont vraies, qui se sont passées, mais qui sont enterrées, mais que le Seigneur veut guérir. Et il y a aussi dans Jean 8, alors ça c'est un de mes chapitres préférés aussi, Jean 8, 31-32, Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Hein ? Et souvent on retient et la vérité nous rendra libre. Alléluia. Mais c'est qu'une partie du verset. Et en fait, là, il y a connaître la parole et demeurer dedans, dans la parole. Si vous demeurez dans ma parole. Donc pour être disciple et libre, c'est demeurer dans la parole. Et demeurer, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire obéir aussi à la parole. Et par l'obéissance à cette parole, le Seigneur va nettoyer et le verset va s'accomplir. Et donc ça dépasse nos capacités à nous. Demeurer et obéir, ça ne peut se faire que... L'obéissance vraie, elle ne peut se faire que par amour. La véritable obéissance de tout son cœur ne peut se faire que par amour. Et cet amour, c'est cet amour qu'on a pour Jésus. C'est plus je le connais, plus j'ai envie de lui obéir. Plus je le connais, plus j'ai envie de le connaître. Plus je le connais, plus ces choses sont révélés à mes yeux qui voient moins bien, sont révélés à mon entendement. Et plus j'avance, plus le Seigneur dévoile ces choses. Connaître Jésus, connaître le Père, connaître le Saint-Esprit, ça c'est ma préoccupation. Mais ça l'est aussi pour vous. Qu'on puisse s'approcher de plus en plus, connaître notre Dieu. Ce Dieu d'amour, ce Dieu de grâce, mais ce Dieu de vérité, de justice. Alors ensuite, il y a l'arbre du jugement. Je vous en avais parlé, mais je pense que je ne suis pas le seul. Dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y en avait un auquel le Seigneur avait demandé à Adam et Ève de ne surtout pas toucher. Et ils se sont laissés abuser, ils se sont laissés tromper. Et cet arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont compris que ça pouvait leur procurer quelque chose, quoi. La connaissance du bien et du mal. Et Dieu leur avait dit, n'y touchez pas, parce que le jour où vous allez y toucher, vous mourrez sûrement. Mais ils se sont laissés tromper, abuser, et effectivement, quand ils ont touché, quand ils en ont consommé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, leurs yeux se sont ouverts. Et déjà, ils ont vu qu'ils étaient tout nus. Bon, ça ne les gênait pas avant, mais là, ça les a gênés. Ils ont cherché à se cacher, à s'habiller, à se cacher. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on l'appelle aussi l'arbre du jugement. Parce que ça nous a donné une capacité qu'on croit. C'est qu'en voyant des choses et des choses, On peut donner notre avis, on peut commencer à critiquer, et le jugement n'est pas loin. Mais à chaque fois, vous pouvez le reconnaître avec moi, que ce sont des choses négatives. 80% du temps, quand on va commencer à regarder dans la vie des gens, alors nous, vous savez l'histoire de la paille et de la poutre, on a une poutre dans l'œil, ça nous gêne un peu. Mais alors là, on voit bien la paille qui est dans le poutre, dans la paille qui est dans l'œil de notre voisin ou de notre frère. C'est étonnant. Et cet arbre du jugement, tant que nous allons vouloir aller consommer des fruits de cet arbre du jugement, il va pourrir notre vie. Vous savez, il y a deux choses qui moi, dans le Nouveau Testament, je vois régulièrement. Le pardon, c'est un ordre, c'est une discipline que le Seigneur nous demande d'avoir et de ne pas juger. C'est clair et c'est net. Si vous trouvez autre chose, vous venez me voir. D'accord ? Je vous dis ça parce qu'en fait, derrière, qu'est-ce qui est dit ? Matthieu 7, versets 1 et 2. « Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. » Ça vous dit quelque chose, ça ? Mais il n'y a pas qu'un endroit où c'est mis. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera. De la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. C'est-à-dire qu'on sort de la volonté de Dieu et on retourne sous l'ancienne alliance, une alliance où donc il y avait la loi de Moïse, le jugement, dent œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Et l'ennemi, lui, il est aux aguets. Il a jugé, donc j'ai le droit de le juger. Vous savez qu'il est l'accusateur des frères. Vous pouvez être chrétien, mais si vous mangez de ce pain, de l'accusation, du jugement, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Où est la couverture de Dieu pour vous, là ? Elle n'y est pas. Vous êtes sorti du plan de Dieu. Et l'accusateur des frères dit, il vient devant Dieu et dit, il a jugé, il doit être jugé. Le pardon, regardez bien ça dans la parole. Le pardon, c'est un principe de Dieu, c'est un principe du royaume de Dieu. Là où vous apportez le pardon, là il y a le royaume de Dieu. Et ça, je peux vous en témoigner plusieurs fois. C'est l'atmosphère du royaume de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui est répandu. Si vous exigez justice et réparation pour les péchés et les torts contre vous, on agira envers vous de la même manière. Vous serez traités de la même façon que vous traitez les autres. On va voir une histoire tout à l'heure qui va vous aider. C'est le régime de la loi et ce n'est pas le régime de la grâce. Qu'est-ce que Jésus est venu apporter ? C'est bien le régime de la grâce. Pourquoi se remettre sous le régime de la loi ? Galates 6, versets 7 et 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Satan connaît les lois de Dieu. Il n'y a pas plus légaliste que lui. Il est l'accusateur des frères, je vous l'ai dit, et rien ne lui échappe. Tu as jugé, tu dois être jugé. C'est la loi que tu as choisie, c'est elle qui va s'appliquer. Donc je vais passer un passage un peu plus intéressant. Il y a les avertissements, et puis si vous en aviez besoin. Et puis après, c'est le Seigneur nous entraîne dans sa grâce. La miséricorde, elle triomphe du jugement. Vous avez entendu ça aussi. La miséricorde triomphe du jugement. Je me suis battu avec ça, je peux vous le dire, parce que c'était difficile pour moi. C'était difficile pour moi. Je croyais que parce qu'on m'avait blessé, j'avais la possibilité de juger. Mais je savais, ô combien je savais que c'était la vérité, que la miséricorde, elle triomphe du jugement. Et je renonçais à juger, je voulais pardonner. Il y avait des combats, c'était difficile, donc je peux vous dire que vous pouvez avoir besoin de l'aide du Seigneur, de l'aide des frères et sœurs autour de vous. Parce qu'en fait, ce sont des mauvais réflexes, c'est tellement courant dans cette vie, où ça juge, où ça, des paroles mauvaises sont données, des blessures sont occasionnées, et on s'en va tranquille. Et donc forcément, on tremble là-dedans, on est dans ce monde. Hein. Et vous avez la parole de Dieu qui dit, « Tu dois pardonner, Seigneur, je dois pardonner, mais comment faire? T'as vu ceci, t'as vu cela ?» Ça, je peux vous le dire, il y a eu des combats, c'est des combats secrets, hein. tout le monde n'est pas au courant. Mais le Seigneur m'a vraiment délivré de ça. Plus je marchais, plus je mettais un pas après l'autre en disant « Je ne veux pas juger. Seigneur, tu fais grâce. Tu fais grâce parce que tu m'as fait grâce. Je veux pardonner parce que tu me demandes de pardonner. Je ne sais pas comment faire, Seigneur, mais je pardonne. Le plus tôt vous pardonnez, le plus tôt vous êtes délivré de ça. » Donc la miséricorde triomphe du jugement. Jacques 2, 12, 13. Dans toutes vos paroles et vos actions, comportez-vous en homme qui se laisse juger par la loi de l'Évangile. Là, ce n'est plus la même chose, c'est la loi de l'Évangile qui vous donne la vraie liberté. Dieu jugera impitoyablement celui qui n'a témoigné d'aucune pitié aux autres. En revanche, celui qui a fait grâce aux autres n'a rien à craindre du jugement. La grâce triomphe du jugement. Ça, c'est la version parole vivante qui est un peu plus détaillée et explicite. La grâce triomphe du jugement. Et le lieu où il y a la grâce, le lieu du royaume, là l'ennemi, il n'a aucune possibilité de venir. Cet endroit-là, il ne peut pas y mettre les pieds. Donc plus vous vous retirez dans ce lieu de grâce, dans ce lieu de pardon, plus la couverture de Dieu vous couvre, comme une poule couvre ses poussins et les garde. Donc je vous dis ça parce que je suis un homme, un humain, et je sais les combats qu'il peut y avoir dans les vies, les luttes qu'il peut y avoir. Et toute la journée, vous avez commencé bien la journée, vous avez prié, c'était bien, et puis la journée commence, un ennui, deux ennuis, Seigneur, aide-moi. Et il y a des luttes et des luttes, et on a tout juste assez d'amour dans notre réservoir pour passer la journée. Et ces combats-là, ils sont bien existants. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent. On ne va pas dire ça à tout le monde. Tu comprends, je suis chrétien. Mais ces choses-là, elles existent. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est vraiment ça. C'est Seigneur, tu veux me révéler. Tu veux amener ce qui nuit à ma vie. Ce qui nuit à ta vie en moi. Toutes les vieilles gamelles qui ont été accrochées durant ma vie. Et peut-être avant. Et tu veux me délivrer de ça. Mais vous, papa, vous avez à dire, Seigneur, je ne veux plus tremper là-dedans. Seigneur, si tu me révèles quelque chose, alors je pardonnerai. Alors tu me conduiras dans une démarche de pardon, celle qui est nécessaire, celle qui est juste. Voilà. Alors, il y a eu une situation dans la parole, dans les évangiles, dans Jean 8, qui s'appelle... Donc c'est... Tu me suis, Serge? Ouais, c'est bon. Bon, du coup, là, c'est écrit petit, mais je pense que vous connaissez assez bien l'histoire. Ça s'appelle la femme adultère. Mais il n'y a que la femme qui est venue. Franchement, l'homme, il aurait dû venir aussi. Parce que, du coup, les deux auraient pu être pardonnés. Donc moi, ça fait partie des passages quand je lis ça, Seigneur. Tu es extraordinaire. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien. Il y en a plusieurs comme ça qui manifestent la bonté de Dieu. Jean 8, 1, 12. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il se rendit de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. Il s'assit et les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère. La place au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit « Que celui de vous, qui est sans péché, lui jette le premier la pierre. » De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés dans leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par le plus âgé, jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs ? Personne ne t'a condamnée ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Jésus leur parla de nouveau et dit, dans le verset 12, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Alors cette histoire, elle est caractéristique des deux possibilités. D'un côté, il y a donc les religieux qui amènent cette femme surprise en état d'adultère. Et puis, ils connaissent la loi de Moïse. Il amène cette femme et puis il dit, Jésus, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais de cette femme ? En fait, leur intention n'était pas forcément bonne, d'après ce qu'on croit. Et donc, il y a cette pauvre femme qui, elle ne peut rien faire. Et Jésus est devant. C'est deux situations. Mais Jésus, il est venu pour que la justice... Il n'a pas dit qu'il venait abolir la loi. Il est venu accomplir la loi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce qui était impossible aux hommes, lui, il l'a accompli. Nous ne pouvions pas être justifiés par nos propres forces. Et lui, Jésus, est venu pour manifester et pour nous amener juste pécheurs que nous étions. Et donc d'un côté, il y a ces hommes qui accusent, de l'autre côté, il y a Jésus, la femme à ses pieds. Et puis Jésus, il va écrire par terre. Il n'est mentionné nulle part ce qu'il écrit. Et par deux fois, il va écrire. À votre avis, à l'intention de qui était ce qu'il écrivait ? Moi, je crois que c'était pour ces hommes qui étaient aveuglés. Et Jésus s'est penché, il a écrit, il les voyait, il voyait tout dans leur vie. Et il leur révélait quelque chose. Il s'est relevé, peut-être, et puis il leur dit que celui qui n'a pas péché, jette le premier la pierre. Ça n'a pas suffi, donc il est patiemment, il s'est remis à genoux, et puis il a écrit. Il a écrit quelque chose pour ces hommes. Il voulait les entraîner aussi avec lui. Il voulait leur dire, c'est fini. C'est fini ce temps-là. Le temps de l'ancienne alliance est fini. Je suis venu. Je suis venu pour vous apporter le pardon de tous vos péchés. Vous savez, je crois qu'à un moment donné, Mais Jésus est le Père dans le ciel. Et le Père disait, on l'entend dans la parole, « Mais qui enverrai-je » Et Jésus a dit, « Moi, j'irai. » Le Père qui nous aime, chacun d'entre vous, chacun des personnes qu'il a amenées sur cette terre, d'un amour infini, il disait, « Mais ils sont tous en train de s'entretuer. » Qui enverrai-je ? Et Jésus a dit, moi j'irai. Et Jésus est venu, Dieu qu'il était et qu'il est, il est descendu sur terre pour que pour toujours, ceux qui se mettent de son côté ne restent pas du côté de l'ancienne loi, mais ceux qui se mettent de son côté, leurs péchés soient pardonnés. Il y a l'histoire aussi c'est du paralytique je crois, on le descend pour qu'il soit guéri. Et Jésus commence par lui dire, tes péchés te sont pardonnés. Donc il est dit un peu plus loin que c'était afin qu'on comprenne que Jésus était venu et qu'il avait le pouvoir de pardonner les péchés. Donc, de quel côté vous vous situez ? Est-ce que vous restez du côté de la loi ? Vous êtes accusé sans pouvoir rien y faire. Alors, ces personnes qui ont amené cette pauvre femme adultère, ils sont tous repartis un à un, finalement. Ils n'ont pas voulu se mettre du côté de Jésus. Peut-être ils se sont dit, jusque-là, on amenait un agneau en sacrifice pour nos péchés. On va continuer de suivre la loi de Moïse. Peut-être qu'ils se sont dit ça, mais peut-être à travers ce que Jésus a pu écrire, il écrit dans nos cœurs quelquefois des choses. Jésus ne vient pas avec violence dans nos cœurs. Il vient vraiment avec cette simplicité, quoi. C'est une parole pour nous, que les autres ne peuvent pas comprendre, forcément. Il vient écrire dans nos cœurs. Alors peut-être... C'était pas pour ce jour-là, pour ces personnes qui sont reparties. C'était pour plus tard. Mais je suis sûr que toute leur vie se sont rappelés de ça. Et après la croix, peut-être qu'ils sont venus à Jésus. Et là, ils se sont rangés du bon côté. Dans 1 Pierre 2,24, il est dit... Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Il a fait de nous des hommes et des femmes justifiés. Amen. Le sang de Jésus est tout puissant pour nous laver de tous nos péchés, pour nous donner le pardon de tout ce qui a pu se passer dans notre vie. C'est pour ça que tant et tant de fois il est répété de pardonner. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Guéri physiquement, guéri intérieurement. Il a guéri nos cœurs aussi. Et donc, c'est vrai, le verset 12, quand Jésus dit, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Reconnecter à l'arbre de vie. Passer de l'arbre du jugement à l'arbre de la vie. Choisissez de rester auprès de l'arbre de la vie, Jésus-Christ. Amen. Il y a aussi peut-être les plus grands mots de Jésus dans la parole. Père, pardonne-leur. Jésus est sur la croix. Il y a des gens qui se moquent, qui l'ont humilié au plus haut point devant lui, qui se sont arrachés ses vêtements. C'est la bassesse la plus profonde du monde. Si tu es le roi des Juifs, descends donc de la croix. Toutes ces choses-là. Et Jésus, sur la croix, qui dit... Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'elle est merveilleuse cette prière. Père, pardonne-leur. C'était pour chacun d'entre nous, ça. Parce que nous étions de la même nature que ces hommes et ces femmes qui ont crucifié Jésus, qui criaient « Crucifie-le !» Et Dieu, notre Papa Céleste, il a entendu la prière. Il nous a pardonné. Le pardon est en Jésus. Et là, cette prière qui a été reprise aussi, vous savez, par Étienne, donc un des premiers disciples aussi qui a été lapidé. Et on sait dans l'histoire qu'il y avait un jeune homme qui était là lors de la lapidation. Et donc Étienne a dit, ne leur impute pas, ne leur impute pas ce péché. Et donc ce jeune homme, c'était Saul, donc Paul qui est devenu... Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai inversé ? Bon, il est temps que j'arrête. Donc c'était Saul de Tarse qui est devenu Paul, qui a écrit la moitié du Nouveau Testament. Et la puissance de ce pardon, il n'a rien retenu. Ne leur impute pas ce péché. Et plus tard, Paul, combien de fois il a été au préfet, bien sûr, du pardon, et combien aussi il l'a enseigné. Et bien sûr, la prière, c'est une évidence, quoi, quand les disciples demandent à Jésus, apprends-nous à prier. Donc, dans Matthieu 6, voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et ça continue le verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Donc cet avertissement, il est clair d'un bout à l'autre. C'est pour ça que soyez attentifs à ces paroles. Soyez attentifs, non pas forcément à tout ce que j'ai dit, mais ce que le Saint-Esprit aura déposé dans votre cœur. Et... tous ces mauvais souvenirs peut-être qui sont enfouis et que vous n'avez jamais pardonné. Ne me rappelle pas ça surtout. Ne me rappelle pas ça, ça m'a tellement fait souffrir. Mais tant que ça, je peux vous le dire, tant que ça, c'est enfoui, l'ennemi, il est là et il vous tient avec ça. Soit il vous accuse, soit il vous rend honteux. Et vous avez des combats dans vos journées. Alors mes amis, le Seigneur veut que la vérité soit au fond de nos cœurs et manifestée, amenée à la lumière, pour que le Seigneur les nettoie. Rangez-vous du côté de Jésus. Ne laissez pas des choses d'un côté et un petit peu de l'autre. Rangez-vous du côté de Jésus. Au pied de Jésus, qui a tout accompli, vous pouvez apporter toutes ces douleurs. Alors, le pardon, on pourrait passer un week-end à parler dessus, et ce ne serait pas encore suffisant. Mais je vais m'arrêter là. Dans Ésaïe, 38, 16-17... Voilà ce que Ésaïe disait, « Seigneur, c'est par tes bontés que l'on vit. C'est grâce à elles que j'ai encore un souffle de vie. Tu m'as restauré, tu m'as fait revivre. Mon amertume s'est changée en bien-être. Tu m'as aimé au point de me retirer de la fosse de la destruction. Tu as jeté derrière moi tous mes péchés. » Quand Jésus a pris vos péchés, quand vous avez amené vos situations de vie, quand vous demandez pardon, quand vous pardonnez, c'est au pied de Jésus. Jésus, il met ce tampon acquitté, une fois pour toutes. Ne revenez pas fouiller dans vos vieux péchés, ne revenez pas fouiller dans quelque chose que vous avez pardonné. Quand vous l'avez donné à Jésus, c'est fini. Une fois pour toutes, il vous a lavé. Amen. J'ai prié pour vous conduire peut-être dans votre démarche personnelle pour aller plus loin que ce que le Seigneur aura manifesté dans votre cœur. Il puisse vous lui donner l'autorisation d'aller plus loin, de laver vos péchés, de les prendre. Rangez-vous du côté de l'arbre de vie, du côté de Jésus. Amen. Allez Seigneur, merci Seigneur. Merci Père d'avoir envoyé Jésus. Seigneur, nous étions tous des brebis égarées, perdus. Oui Seigneur. Environnés Seigneur, de la mort, de tourments Seigneur. Ô combien Seigneur. Mais Seigneur, tu as envoyé Jésus afin que lui qui n'a jamais péché, lui qui a pris toutes nos fautes sur le bois de la croix. Oui Seigneur, il a tout pris afin que nous soyons libres. Seigneur, nous voulons retenir dans nos cœurs ta parole Seigneur, la laisser agir. Nous voulons que ta vérité soit au fond de nos cœurs Seigneur. Nous voulons plus laisser de possibilité à l'ennemi de venir nous gâcher notre vie. Oui, Seigneur, nous voulons nous ranger de ton côté, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, éclaire nos vies. Oui, Seigneur, que là où nous ne pouvons pas pardonner, que là où nous ne pouvons pas voir les choses, Seigneur, tu nous aides, Seigneur. Oui, Seigneur, toute cette souffrance, Seigneur, tu l'as prise, Seigneur. Je ne sais pas tout ce qui est enfoui, tout ce que mes frères, mes sœurs qui sont devant moi, tous ces amis, Seigneur, ont pu vivre, Seigneur. Mais je sais, Seigneur, que tu veux les libérer, Seigneur. Que tu veux amener toutes choses à la lumière, Seigneur. Et tu veux que des pardons soient donnés, Seigneur. Qu'ils soient accordés, offensés ou offenseurs, Seigneur. Seigneur, merci de régner dans les cœurs, maintenant, au nom de Jésus. Et que ta volonté parfaite, ta volonté première soit faite dans les cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen.